Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Si vous êtes adepte des séries télé, vous aurez sûrement reconnu le générique de Cold Case, cette série dans laquelle des inspecteurs élucident des crimes des années après les faits. Dans votre club des idées, ce soir sur Europe 1, on va s'intéresser à ce sujet passionnant et mystérieux. Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien parce qu'un groupe de travail vient de remettre à la chancellerie un rapport avec des propositions afin d'améliorer le traitement judiciaire des affaires non résolues. Avec moi pour en parler ce soir, des spécialistes. Jacques Dallest, procureur général près la cour d'appel de Grenoble, qui a présidé ce groupe de travail, qui est à l'origine de ce rapport, dont il est aussi à l'initiative. Le criminaliste Roger-Marc Moreau, l'avocat pénaliste Cathy Richard et Philippe Guichard, directeur adjoint de la lutte contre le crime organisé et ancien chef de l'OCRVP. C'est l'office central qui s'occupe notamment de tous les cold cases pour la police judiciaire. Vous avez également, Philippe Guichard, participé à l'élaboration de ces propositions. D'abord, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous me disiez, est-ce qu'on a une idée du nombre d'affaires criminelles non résolues aujourd'hui en France, Philippe Guichard ?
Alors, on n'a pas une vraie idée du nombre d'affaires criminelles non résolues actuellement en France. Déjà, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par cold case ? C'est oui. Une notion un peu compliquée, qui n'est pas juridiquement définie. On dit en général qu'il s'agit de dossiers criminels graves, de sexe ou de sang, non élucidés, qui commencent à dater, qui sont un peu en souffrance dans les services, finalement, sur lesquels il n'y a plus d'axe d'enquête, véritablement, et dont on sent bien qu'il est temps de relancer un petit peu les investigations.
Mais quand vous dites qu'on n'a pas vraiment une idée du nombre d'affaires, ça se traduit combien ? En dizaines, en centaines, en milliers ?
Écoutez, on a fait un recensement il n'y a pas longtemps des dossiers d'homicides non solutionnés, toujours en portefeuille dans les services de police judiciaire. Il y en a environ 150 sur tout le territoire national, sans compter la préfecture de police de Paris. Les dossiers qui seraient gardés entre les mains de la sécurité publique. Je ne parle pas des dossiers traités par la gendarmerie nationale,
mais c'est encore autre chose, d'accord.
Ceux qui sont traités par la police judiciaire. 150 dossiers d'homicide, c'est pas mal, mais c'est pas tout, parce que on peut aussi considérer comme étant un cold case un dossier de sexe, par exemple un viol aggravé ou une série de viols aggravés. Ça peut tout à fait rentrer dans le cadre des affaires qu'on cible comme étant des cold cases. Et puis, il y a les affaires de disparition.
Oui, j'allais y venir.
Qui sont vraiment compliquées à dénombrer parce que c'est jamais très simple de savoir si, oui ou non, une disparition est inquiétante, très inquiétante, si finalement c'est un homicide sans corps découvert.
Oui, est-ce que vous nous dites qu'en gros, le cold case, ça n'est pas uniquement quand il y a un cadavre, hein ? Alors, des experts, des policiers, des gendarmes, des avocats spécialisés réunis dans un groupe de travail ont donc remis ces derniers jours un rapport au ministre de la Justice avec des propositions pour améliorer le traitement judiciaire de toutes ces affaires non résolues. Vous êtes à l'origine de ce groupe de travail, Jacques Dallest. Avant de nous dire ce que vous préconisez, expliquez-nous pourquoi ce rapport ? Parce qu'aujourd'hui en France, il y a vraiment des lacunes dans le traitement de ces affaires judiciaires ?
Oui, bah écoutez, je pense que ce sont des affaires, comme l'a dit Philippe Guichard, très complexes. Malgré toute l'énergie que les enquêteurs, les magistrats y mettent, elles ne sont pas forcément simples à élucider. Et je crois qu'on peut progresser, et c'est un peu le résultat de notre groupe de travail, on peut progresser dans le traitement judiciaire de ces affaires difficiles. Bien sûr.
Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, il n'existe pas réellement de centralisation des dossiers, des données, Philippe Guichard ?
Alors non, il n'existe pas de centralisation des données, mais il existe au sein de la police judiciaire un office, l'Office central pour la répression des violences contre les personnes, l'OCRVP, qui a pour mission normalement, il suffit de lire son décret portant création de 2006, de coordonner, de centraliser les informations relatives aux affaires d'atteinte grave contre les personnes. Cet office a aussi en charge un certain nombre de dossiers, de cold cases notamment, seuls ou en co-saisine avec des services territoriaux. En ce moment, ils en ont à peu près une trentaine en portefeuille. Et donc, ils investiguent en collaboration avec des services territoriaux sur les dossiers pendant, en souffrance un petit peu, dans les services de province.
Roger-Marc Moreau, je rappelle que vous êtes criminaliste et enquêteur privé. Vous êtes donc sur le terrain régulièrement. C'est quelque chose que vous constatez ? Les juges, ils ne se parlent pas entre eux, les enquêteurs non plus ? Il n'y a pas beaucoup d'échanges ?
Oui, non, il y a un manque d'échanges, c'est certain. Et puis, on parlait des disparitions. Les disparitions, mais elles ne sont pas réellement recensées. Il y a les enterrés sous X. On ne sait pas s'il s'agit de crimes ou non. Et puis, il y a également des problèmes par rapport à les mêmes résolutions des affaires. Quand on parle d'un cold case, oui. Récemment, j'ai traité une affaire, c'était, on a prétendu être un cold case résolu, parce qu'on avait trouvé un ADN sur la main de la jeune fille qui avait été assassinée. Et tout de suite, on a mis en détention un homme qui était le détenteur de cet ADN. Et avec Maître Cormier, l'avocat de Lyon, nous avons réussi à démontrer qu'il y avait peut-être un doute, qu'il peut y avoir des problèmes de transfert d'ADN, et par conséquent, il n'y avait pas de preuve. Donc, il a été pour l'instant mis en liberté.
Ouais. On va revenir sur cette affaire d'ADN, parce que c'est passionnant aussi. J'imagine, Maître Cathy Richard, vous êtes avocat, que c'est quelque chose que vous déplorez en tant qu'avocate, ce manque de communication, parce que c'est terrible aussi pour les familles qui attendent des réponses, qui n'imaginent pas finalement les blocages qu'il peut y avoir derrière toutes ces enquêtes.
Oui, exactement. Déjà, on rêve d'une coopération efficace depuis des années. Comme aux États-Unis, il avait été question du VICAP, en France, du SALVAC, et on se rend compte encore.
C'est quoi ? Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire des fichiers de mise en commun avec un certain nombre de points. C'est-à-dire que chaque enquêteur doit répondre à un certain nombre de points lorsqu'il a une scène de crime ou un mode opératoire d'un violeur en série. Et puis, c'est distribué à tous les services pour être mis en commun, pour qu'on puisse faire éventuellement le rapprochement entre les uns et les autres. On sait qu'aux États-Unis, pendant longtemps, justement, les tueurs en série ou les violeurs en série passaient d'un état à l'autre en se disant et les États-Unis n'étaient pas habitués à ça. Et puis en France, on s'est rendu compte, on commence à se rendre compte qu'ils font pareil en Europe. Moi, ouais. je suis dans un dossier là où on vient de faire venir Martin Ney d'Allemagne. Avant ça, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il avait un mode opératoire qui faisait qu'il intervenait dans les colonies de vacances auprès de jeunes garçons. Et effectivement, il coche toutes les cases de l'affaire du petit Jonathan en France.
Ouais, vous savez quoi, on va poursuivre le débat parce que c'est passionnant. Malheureusement, on doit partir en pub. On va se retrouver dans un tout petit instant. Vous allez nous dire notamment ce que vous proposez justement pour améliorer le traitement judiciaire de ces affaires non résolues. À tout de suite. 19h31, c'est la suite de notre débat du Club des idées sur Europe 1, consacré ce soir à ces affaires criminelles non élucidées, parfois très anciennes, qui se trouvent dans une impasse, des dossiers qui souvent tombent dans l'oubli au grand désespoir des familles. Et on en parle ce soir parce qu'un rapport d'experts vient d'être rendu au ministère de la Justice, un rapport qui propose des pistes pour une meilleure centralisation, une meilleure communication, un meilleur partage des informations afin que ces dossiers ne restent pas sur des étagères. À mes côtés ce soir, Jacques Dallest, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, qui a présidé ce groupe de travail. Philippe Guichard, directeur adjoint de la lutte contre le crime organisé et ancien chef de l'office central qui s'occupe, je résume, mais c'est plus simple, notamment de tous ces cold cases pour la police judiciaire. Également autour de cette table, le criminaliste Roger Marc Moreau et l'avocat pénaliste Cathy Richard. Nous avons une justice qui fonctionne encore avec les méthodes du 19e siècle. C'est ce que dit l'un des avocats qui a participé à la rédaction de ce rapport. Nous n'avons pas une culture du travail collectif et c'est d'ailleurs ce que vous nous confirmiez tout à l'heure. Alors, que faut-il faire ? Que proposez-vous, Jacques Dallest ?
Alors, je ne dirais pas que la justice fonctionne comme au 19e siècle. On a quand même un petit peu évolué. Il ne faut pas oublier que les juridictions en France, comme dans la plupart des pays, sont territorialisées. Donc, on a des compétences limitées, alors que le malfaiteur, lui, peut se déplacer partout, ce qui est une des contraintes auxquelles on est confronté. Alors, les préconisations, après cette année de travail avec les collègues les membres du groupe de travail, c'est de faire en sorte qu'on traite mieux dans l'appareil judiciaire, ces affaires complexes. Comme l'a dit Philippe Guichard, il y a des crimes non élucidés qui sont en cours, d'autres qui sont carrément clôturés. Il y a les affaires de disparition inquiétantes. Nous avons formulé 26 recommandations, certaines assez ambitieuses, d'autres beaucoup plus pratiques, dont certaines nous semblent pouvoir faire progresser très largement le traitement de ces affaires. Et je peux y revenir si vous le souhaitez.
Eh bien oui, nous le souhaitons évidemment. Alors par exemple, dites-nous, il faudrait un pôle de juges spécialisés comme c'est le cas en matière de terrorisme ou de santé publique ?
Il y a trois recommandations qui me semblent majeures. Celle de créer des pôles spécialisés interrégionaux, 8, 10, on ne sait pas encore, qui, avec des magistrats spécialisés, dédiés du parquet et de l'instruction, qui auraient pour charge de traiter ces affaires contre X. Ils n'auraient que ces dossiers à traiter, ce qui n'est pas le cas actuellement dans les tribunaux où les magistrats sont pris par la délinquance ordinaire, avec notamment des détenus, donc des urgences. Donc des pôles spécialisés avec des connaissances, une formation et la capacité de se mettre en réseau. Ça, c'est une des premières recommandations, je pense, majeures pour progresser. Une autre, c'est que dans tous les parquets où se tiennent des pôles criminels, dans la plupart des départements, il y a une mémoire criminelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'un dossier est clôturé, il soit bien numérisé et qu'on puisse accéder très facilement au stock d'affaires qui sont encore en cours ou qui pourraient être retravaillées.
Mais ça n'existe pas. Ça
peut échapper très vite.
Ça paraît assez fou que ça n'existe pas aujourd'hui quand même.
Ça n'existe pas. Où c'est très empirique, parce que les affaires se succèdent, parce que les affaires contre X laissent la place à des affaires où des personnes sont interpellées. Et c'est tout le problème de garder cette continuité dans la connaissance et de faire en sorte qu'on retrouve très vite à la fois les dossiers, mais aussi les scellés, les pièces à conviction, qu'on ne les détruise pas, qu'on ne les perde pas, puisqu'elles permettront peut-être de travailler sur une preuve scientifique.
Alors justement, Philippe Guichard, expliquez-nous à partir de quel moment est-ce qu'aujourd'hui on classe une affaire, au bout de combien d'années ?
Alors ça, c'est très, très difficile de répondre à cette question.
Il n'y a pas une règle.
Non, il n'y a pas de règle.
Si au bout de 20 ans, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, non, je mets le dossier sur une étagère et c'est terminé.
Le juge, à la limite, peut laisser une affaire ouverte tant qu'il le veut.
Mais il ne le fait pas.
Il le
si
fait
je
pas.
Peux me permettre, ça c'est oui, plutôt moi qui vais répondre
Richard.
Là-dessus.
Alors,
oui,
bon.
Parce qu'on est au stade judiciaire, on n'est plus au stade d'enquête. Malheureusement, les policiers, ils ne peuvent pas grand-chose. Les policiers, on leur donne des commissions rogatoires. Le CRVP fait un travail remarquable, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même la mentalité dans les juridictions, des chefs de juridiction qui disent aux juges d'instruction, il faut que les affaires, elles avancent. Donc, dans un dossier, lorsqu'on estime qu'on a fermé toutes les portes, eh bien, on doit rendre une ordonnance de non-lieu. La mentalité aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse pas un dossier traîner dans un cabinet d'instruction et c'est qu'on rend une ordonnance de non-lieu. Et ça, c'est important déjà de changer cette mentalité-là, soit dans ces cas-là, en envoyant pourquoi pas les dossiers à ces groupes spécialisés, soit en laissant les dossiers chez les juges d'instruction.
Parce qu'à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, c'est terminé.
Alors, à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, va commencer à courir le délai de prescription. Et ça, c'est pareil, il faudrait reparler du délai de prescription. La prescription en France, pour le coup, elle évolue, mais tout doucement. Et elle évolue beaucoup plus doucement que les mentalités et que les progrès de la science. Vous voyez, avant, on avait une durée de vie courte. Et puis, dans un dossier, pour le sortir, on avait des témoignages. Donc, c'est vrai qu'on se disait, au bout d'un moment, ça ne servait plus à grand-chose. On disait, il y a une vertu de l'oubli dans ces cas-là. En réalité, aujourd'hui, on a plein de choses et on sait que tout évolue. Donc, déjà, il faut revoir cette prescription qui est vraiment une spécialité française.
Mais vous dites qu'il
n'y a pas
vraiment
de délai,
on ne dit pas 20 ans, 30 ans.
Il y a pas Alors si, il y a des délais de prescription qui commencent à courir une fois que le dossier est fermé. Mais pour ouvrir
après,
un dossier...
Après le dernier acte d'instruction,
voilà,
en fait.
Mais après l'ordonnance de non-lieu. Ouais. Mais pour ouvrir un dossier, il faut beaucoup. Alors qu'un dossier qui est ouvert, s'il y a un peu, on peut au moins le vérifier sur un peu. Vous voyez, dans un dossier comme la disparition
de Sylvain... Pour ouvrir un dossier, il ne suffit pas de dire, tiens, j'ai un petit élément nouveau, on
voilà,
a peut-être
pour ouvrir,
vu un tel,
c'est compliqué.
À tel endroit.
Dans le dossier de disparition de Cécile Valin, qui avait 17 ans et qui a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne en 1997, ça fait des années que je porte à bout de bras le dossier pour qu'on ne le clôture pas. Voilà. Parce qu'il faut systématiquement demander des actes pour éviter. On me dit, mais maître, il n'y a plus rien à faire maintenant. On va rendre une ordonnance de non-lieu. Non, on ne rend pas d'ordonnance
de non-lieu. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle vous vous battez
beaucoup.
Hein. Je sais, maître Cathy Richard. On a d'ailleurs l'un de vos clients en ligne. Je voudrais qu'on écoute ce témoignage.
C'est justement le papa de...
Voilà. Bonsoir, Jonathan Oliver.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes justement le père de Cécile Valin. Votre fille a disparu quand elle avait 17 ans, en juin 1997, après avoir quitté la maison familiale à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Elle a été aperçue pour la dernière fois le long d'une route départementale en direction de Chambéry. Depuis, plus rien, plus aucune nouvelle, aucune piste, malgré l'enquête, malgré les fouilles, malgré les appels à témoins, malgré les affiches placardées. Cécile, dites-vous, était une jeune femme épanouie, sans problème, heureuse, qui avait des projets. 23 ans plus tard, vous ne savez toujours pas ce qui lui est arrivé, mais vous ne voulez surtout, surtout pas qu'on referme son dossier. Or, il a failli l'être à plusieurs reprises. Hein.
Alors, ça, c'était le sujet d'une énorme angoisse. Possibilité de fermeture du dossier faute de l'acceptation de pistes crédibles par les juges. Alors, je dois dire tout d'abord que Cathy Richard, c'est une avocate d'exception et c'est aussi une femme avec un très très grand cœur et c'est grâce à elle et aussi en partie le travail que j'ai fait avec une petite équipe aussi pour l'aider, que, mais c'est surtout grâce à Cathy Richard que le dossier est resté ouvert. Et c'est une angoisse épouvantable. Cécile était un enfant majeur, elle a disparu, elle n'a pas été l'auteur de sa propre disparition. Et l'idée même qu'on ferme ce dossier, c'est pas de la justice, c'est de l'injustice.
Parce donc, que vous vous dites que quelque part, forcément, il y a quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qui s'est passé. Hein.
Ah oui, alors bah forcément, forcément.
Alors finalement, puis, grâce à votre avocate, dont vous dites beaucoup de bien, c'est l'OCRVP que dirigeait justement Philippe Guichard qui a repris ce dossier, qui est spécialisé dans les cold cases. Qu'est-ce que vous attendez des autorités aujourd'hui?
Alors déjà, simplement le fait qu'il y a eu cette OCRVP qui travaille. Ils étaient toute cette semaine à Saint-Jean-de-Maurienne, là où Cécile avait disparu. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'ont pas, mis une échéance sur le travail sur le dossier de Cécile. Donc,
c'est-à-dire voilà, que l'enquête va pouvoir reprendre.
Continuer.
Continuer.
Oui, mais alors, on est sur une toute autre... On n'est pas sur le défensif, ne pas fermer le dossier. Au contraire, bravo, on va chercher encore plus. On va revoir toutes les pistes avec une équipe très compétente, avec des moyens, avec des techniques, de revoir le dossier de fond en comble. C'est une...
On imagine effectivement votre soulagement. Donc, Philippe Guichard, ça veut bien dire qu'il y a quand même aujourd'hui des choses qui fonctionnent, hein, puisque ce monsieur va pouvoir voir l'enquête sur la disparition de sa fille se poursuivre.
Bien sûr. Et surtout que j'allais dire qu'on peut toujours élargir le champ des investigations. Moi aussi, ça me dérange franchement qu'un dossier soit clôturé, parce que c'est un enjeu de société, en quelque sorte. Est-ce que la société française accepte l'idée qu'un meurtrier soit toujours en liberté et que plus personne ne fasse rien pour essayer de le retrouver? Ça m'ennuie, ça m'empêche de dormir, et donc je ne supporte pas ça. J'estime qu'un dossier criminel doit être travaillé jusqu'au bout du bout et même au-delà. Et je suis persuadé qu'un dossier comme celui de Cécile Valin peut sortir un jour ou l'autre. Il faut simplement qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. C'est la vraie solution. Si un dossier tombe dans l'oubli, c'est le meilleur moyen pour qu'il s'enlise. Si on a un avocat ou la presse qui s'en empare, on peut toujours trouver un élément clé, même très longtemps après les faits.
Oui, c'est important ça. Jacques Dallest, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, vous dites que les médias aussi ont un rôle à jouer en faisant en sorte que ces histoires ne tombent pas dans l'oubli, ces affaires de disparition notamment.
Bien sûr, il faut utiliser tous les supports modernes, les réseaux sociaux, les médias. On sait que maintenant, nos concitoyens regardent beaucoup de vidéos et ça permet de faire tourner des choses, des images. Petit retour en arrière sur la prescription. J'indique à Maître Richard que dans notre préconisation, on souhaiterait que la prescription pour les crimes de sang passe de 20 à 30 ans.
Maître Richard,
c'est normal. Ouais, qu'on laisse un temps, qu'on accroisse le temps permettant à la justice de travailler, même si le dossier a été provisoirement clôturé, qu'on puisse, des années plus tard, avec le progrès scientifique, éventuellement réouvrir un dossier. À une époque, c'était 10 ans la prescription. Oui, on est passé à 20 et je pense qu'il faut aller encore au-delà.
Et vous, alors, espérez être entendu là-dessus sont... Vous espérez être entendu?
Bah écoutez, ce sera au législateur. Nous, c'est une de nos recommandations. Ce sera au législateur de le dire. Je crois qu'il faut maintenant qu'on considère que la science nous permet d'avancer assez rapidement, et on peut penser que dans 20-30 ans, on élucidera des dossiers qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui. Oui. Et on a besoin de tous les intervenants, les médias, les avocats, qui sont évidemment déterminants. Et comme ça a été dit, il faut que les magistrats soient au contact des familles. On ne peut pas clôturer un dossier, ou si on doit le clôturer, qu'on l'explique, qu'on recueille les explications de la famille, qu'on soit allé jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'on doit évidemment aux proches.
Et vous avez ça me besoin... fait plaisir d'entendre ça.
Oui, je vois ça.
Ah oui, Maître Richard. Parce que vraiment, un degré d'humanité aussi avec les parties civiles, c'est tellement important.
Parce
aussi.
Que pour vous, ça doit être, j'imagine, très difficile, hein, Maître Richard, d'expliquer aux familles pourquoi leur affaire n'avance pas ou est classé sans suite.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on lutte et puis il y a une ordonnance de non-lieu qui nous est rendue et puis on dit non, il restera des choses à faire, bah, on demande des actes, on nous dit oh bah oui, mais c'est pas possible, on va devant la chambre de l'instruction, on redemande des actes, on nous dit mais là pour l'instant, bah, maître, on a fermé toutes les portes, alors là on n'a plus rien à faire. Mais peut-être demain il y aura quelque chose à faire et vous aurez rendu une ordonnance de non-lieu. Et effectivement, on entend aussi des juges d'instruction qui disent « Moi, je n'ai pas forcément besoin de recevoir les parties civiles parce qu'ils m'aident en rien dans la manifestation de la vérité. Ben, » Ce n'est pas seulement, pour le coup, la manifestation de la vérité, là. C'est aussi une petite dose d'humanité.
Alors, quand la situation est bloquée, néanmoins, et que les voies officielles ne fonctionnent pas, la solution, c'est de faire appel à un enquêteur privé, comme vous, par exemple, Roger-Marc Moreau. On fait souvent appel à vous quand vraiment on est arrivé au bout de ce que la justice pouvait nous apporter.
Oui, on essaye de ne pas laisser mourir un dossier, justement, de le médiatiser, d'apporter des éléments nouveaux, d'intéresser. Et les magistrats nous suivent parfois. Moi, je m'étais intéressé, par exemple, à une affaire qui est l'affaire de l'homme au visage grêlé, que tout le monde connaît ici. Le premier crime a été commis en 1984. Il n'a toujours pas fait l'objet d'un non-lieu. Il est toujours instruit parce que le nombre de victimes et la gravité des actes commis ne peut pas. Permet pas au juge d'instruction. Un jour, je déjeunais avec le juge d'instruction. Il m'a dit je ne peux pas rendre un non-lieu parce que les familles ne pourraient pas l'accepter.
Ouais. Et vous êtes occupé aussi de d'autres affaires très médiatiques comme l'affaire Seznec, l'affaire Omar Haddad, notamment Roger-Marc Moreau. Hein.
Oui, oui, et puis l'affaire Azimani El-Jabri. Alors, dans l'affaire Azimani El-Jabri, on a obtenu une double révision. C'était quelque chose de formidable. Mais on l'a obtenu pourquoi ? Comment ? Grâce à l'ADN. Car on avait découvert sur la scène de crime de l'ADN. Et cet ADN n'avait pas été comparé. Il a fallu donc qu'on trouve des éléments nouveaux, par ailleurs des témoignages, qu'on dépose une requête en révision, et c'est la commission de révision qui va rouvrir une information qui va nous permettre de faire des demandes d'actes, notamment d'une nouvelle, l'inscription de l'ADN découvert à l'époque sur la scène de crime au FNAIG. Et c'est ça qui va permettre de résoudre cette affaire et d'innocenter deux hommes qui ont quand même fait en tout 24 ans de prison pour rien. Hein, donc l'ADN, c'est extrêmement important dans ces cas-là.
On va revenir sur l'ADN. Je voulais, parce qu'on a parlé du délai de prescription, on n'a pas encore parlé des scellés criminels. Combien de temps sont-elles conservées dans ces affaires non élucidées, Maître Cathy Richard ?
La problématique des scellés, les scellés, c'est un roman en soi. Ce n'est pas seulement combien de temps ils sont conservés, c'est déjà la problématique de ne pas les perdre. Comme l'avait dit Monsieur le procureur général tout à l'heure, il ne faut déjà pas les perdre. Et si vous saviez le nombre de dossiers, mais bien sûr, où on nous dit « Ah bah oui, au moment de rechercher un scellé, on l'a perdu. »
Ça arrive très couramment.
Mais bien sûr, c'est beaucoup plus couramment. Parce que, à la décharge de la justice, la gestion des scellés, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça demande d'abord beaucoup de place. Il faut que ce soit dans des endroits sécurisés, parce qu'aux endroits où il y a les scellés, il y a aussi...
Il
y a de l'argent qui a été placé sous scellé, il y a des drogues placées sous scellé, il y a des armes placées sous scellé. Donc c'est vrai que la gestion des scellés, c'est quelque chose d'énorme. Et puis malheureusement, parfois on a des scellés disparus, et puis aussi parfois, on a des scellés détruits aussi, parce qu'on va dire, donc on détruit les scellés, soit parce que, à la suite d'une décision judiciaire, on va détruire... ordonnant la destruction des scellés. Alors, ça peut se comprendre dans beaucoup de dossiers, mais parfois, quand après, on sait qu'on peut sortir quelque chose et qu'on entend dire que les scellés sont détruits ou ont été mal conservés aussi. On a
mal
ça.
Rangé,
on a des endroits où on a perdu des scellés parce qu'il y a eu une inondation ou parce qu'il y a eu le feu à la locale des scellés. Voilà. Bon, ça, ce sont
d'autant
des
que ces scellés, ils sont, je crois que c'est masculin, très très importants puisque ils permettent effectivement aujourd'hui, des années plus tard, de résoudre certains cold cases grâce à l'ADN, Philippe Guichard.
Absolument. D'ailleurs, quand on reprend un dossier ancien, quand on le relit, la première des choses qu'on regarde, c'est où sont les scellés, qu'est-ce qui a été fait sur ces scellés. À chaque fois, ou pratiquement. Il y a moyen de les réanalyser, les retraiter. Parfois, ils n'ont pas du tout été traités, d'ailleurs. Ça peut arriver sur des dossiers vraiment anciens.
Quand vous dites qu'ils n'ont pas été traités,
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été envoyés à un laboratoire aux fins de rechercher de l'ADN. Ce qui est évidemment très dommage. Un magistrat décide de prioriser les envois, ce qui est compréhensible, parce que ça coûte quand même cher, une exploitation de scellés, c'est clair. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir, sur un scellé qui n'a pas été exploité au moment des faits ou peu après les faits, finalement, un ADN clé. C'est possible.
C'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, la science progresse et qu'on sait qu'il y a peut-être d'autres techniques qui vont permettre encore d'améliorer tout ça.
Effectivement, les progrès de la science sont indéniables en matière de recherche de traces ADN. D'abord, on retrouve de l'ADN avec un prélèvement beaucoup plus limité, beaucoup plus fin.
Oui.
Et puis, on peut travailler l'ADN pour rechercher...
Maintenant, il y a l'ADN de parentèle aussi.
Voilà, on peut faire le portrait robot génétique d'un individu. On peut faire avancer le dossier grâce à l'ADN avec efficacité, c'est certain.
On peut déterminer la couleur des yeux, éventuellement les cheveux d'une personne. C'est passionnant, je vous garderai bien encore une heure avec moi. Malheureusement, on va devoir conclure. Vous disiez tout à l'heure quelque chose qui m'a touchée, Philippe Guichard. Vous disiez que finalement, vous y pensiez tout le temps, que ça hantait un peu vos nuits, toutes ces affaires. Vous avez quitté l'Office central l'an dernier. Vous avez laissé donc derrière vous un certain nombre d'affaires non élucidées. Il y en a une en particulier qui...
Écoutez, il y en
a
plein,
la nuit.
mais pour vous donner un exemple, j'ai travaillé par exemple sur la disparition d'un jeune garçon dans le sud de la France, du côté de Nîmes, Lucas Tronche. Sa mère m'a dit un jour, monsieur le commissaire, vous êtes mon seul espoir. Comment voulez-vous que ça ne vous touche pas ?
Bien sûr. Merci à vous, merci infiniment de m'avoir accompagné dans ce débat passionnant, trop court bien sûr. Si les affaires criminelles vous intéressent, je ne saurais trop. Par ailleurs, vous conseillez d'écouter en direct tous les jours Christophe Ondelat ou en podcast, évidemment. Lui, il préfère les histoires qui ont une fin, mais c'est quand même très intéressant. On espère que grâce à vous, messieurs, dames, et grâce au progrès de la science, toutes ces histoires aujourd'hui non élucidées auront effectivement une fin très bientôt. Je voudrais qu'on remercie beaucoup Jonathan Oliver qui était en ligne avec nous, le papa de Cécile Valin. Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.